Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après que le Premier ministre a consenti à retirer provisoirement la mesure controversée d'un âge pivot pour toucher une retraite à taux plein, les partenaires sociaux doivent désormais plancher sur des solutions alternatives, mais surtout le fameux âge d'équilibre est loin d'être enterré. Pour autant, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
La France reste le pays européen qui attire le plus d'investissements étrangers en matière d'implantation ou d'extension de sites industriels.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui, et ce, quelques jours seulement avant l'ouverture du forum de Davos. Les deux chefs des belligérants libyens sont attendus ce lundi à Moscou pour signer un accord formel de cessez-le-feu entré en vigueur la veille, et ce, en plein ballet diplomatique pour éviter que ce conflit ne dégénère. Enfin, une initiative pour le moins inhabituelle au Vatican, dans un livre à paraître mercredi, mais dont des extraits ont été publiés hier en exclusivité. L'ancien pape Benoît XVI exhorte publiquement son successeur, François, à abandonner l'idée d'ordonner prêtre des hommes mariés. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Histoire, anatomie et critique d'une vision, d'une idéologie, peut-être avec nous Pierre Rosanvallon dans la seconde partie de la grande table. Il signe un grand livre sur le populisme, à la fois un retour aux sources, aux origines, jusqu'au laboratoire latino-américain de cette idéologie et jusqu'au populisme réel, le populisme en acte aujourd'hui. Pierre Rosanvallon sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Reculade majeure ou manœuvre destinée à diviser et affaiblir les syndicats, toujours est-il qu'après plus d'un mois de mouvement social contre la réforme des retraites, le retrait prévisible ce week-end par le gouvernement du fameux âge pivot a, semble-t-il, ouvert la voie à une possible sortie de crise avec le retour à la négociation des syndicats réformistes. Même si les opposants, eux, ne désarment pas et écartent au contraire l'hypothèse d'une fin rapide du conflit. L'intersyndicale a d'ailleurs d'ores et déjà appelé une sixième journée de grève et de manifestation interprofessionnelle, ce sera jeudi. Enfin, même si l'amélioration est perceptible depuis ce matin, des perturbations persistent dans les transports, dans le métro parisien, mais également à la SNCF avec 9 TGV sur 10, 7 TER sur 10 et seulement 4 intercités sur 10. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, en retirant provisoirement l'âge pivot de son projet de loi, Édouard Philippe n'a fait au fond qu'abattre la carte dont tout le monde s'attendait depuis le début à ce qu'elle soit jouée un jour ou l'autre par l'exécutif, ne serait-ce que pour ébrécher le front syndical. Pour autant, ce retrait reste aujourd'hui conditionné aux mesures permettant d'atteindre l'équilibre financier en 2027 et que les partenaires sociaux sont donc appelés à trouver avant la fin avril lors d'une conférence de financement. Faute de quoi, a prévenu le Premier ministre, eh bien, il prendra par ordonnance les mesures qu'il estime nécessaires. Ce qui signifie qu'au mieux, ce retrait épargnera les départs à la retraite avant 2027. Mais quoi qu'il en soit, alors, l'âge d'équilibre sera in fine bel et bien inscrit dans le futur régime universel.
Oui, parce que ce que le Premier ministre a retiré du projet de loi, c'est l'âge pivot fixé à 64 ans, dont la première marche était prévue en 2022 pour permettre un retour à l'équilibre en 2027. Selon l'hypothèse retenue par le gouvernement, sur la base des prévisions du Conseil d'orientation des retraites, il manque 12 milliards d'euros pour équilibrer le régime à horizon donc 2027. Et le gouvernement renvoie effectivement la balle aux partenaires sociaux pour qu'ils trouvent des alternatives avec deux conditions posées. Pas d'augmentation du coût du travail et pas de baisse des pensions. Les partenaires sociaux qui ont jusqu'à fin avril, vous le disiez, pour faire des propositions. S'ils trouvent un accord, ce dernier sera intégré au projet de loi. Et sinon, le gouvernement pourra remettre au goût du jour l'âge pivot par ordonnance. Édouard Philippe pense toujours que c'est la meilleure mesure. Cela dit, effectivement, le gouvernement ne renonce pas à l'âge d'équilibre dans son futur projet de réforme. Ce sera un des leviers de pilotage collectif, explique le Premier ministre dans la lettre qu'il a adressée samedi aux partenaires sociaux. Et là, on parle d'un âge qui entrera en vigueur à partir de 2037, quand la génération 75, qui est la première à être concernée par la réforme, quand cette génération commencera à partir à la retraite. Cet âge sera donc celui auquel on pourra prendre sa retraite à taux plein. En dessous, il y aura un malus, au-dessus, un bonus. Reste encore à définir cet âge en fonction de l'espérance de vie et de l'âge moyen de départ à la retraite. Il pourra aussi être adapté en fonction de la pénibilité et des carrières longues. De quoi donner encore du grain à moudre aux partenaires sociaux qui auront la charge de fixer cet âge d'équilibre.
Merci Anne-Laure. Mais alors on le voit effectivement, un compromis est loin d'être acquis d'avance. D'une part, parce que gouvernement et patronat restent favorables à une mesure d'âge et s'opposent à toute hausse des cotisations, et d'autre part parce que le gouvernement a également écarté une baisse des pensions, ce qui laisse donc une marge de manœuvre extrêmement étroite aux négociateurs. En clair, le seul véritable levier à leur disposition reste l'allongement de la durée passée au travail. Toujours est-il qu'à présent, le temps presse, sans compter que le spectre de la négociation avortée de l'assurance chômage est évidemment dans toutes les têtes. On s'en souvient, faute d'accord entre partenaires sociaux, le gouvernement avait alors repris la main et changé les règles aux grandes dames des syndicats. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
La pression est donc désormais essentiellement dirigée contre les organisations syndicales, ce qui n'empêche pas le gouvernement de faire feu de tout bois pour éteindre tous les foyers encore possibles de la contestation. Quand des négociations doivent s'ouvrir cet après-midi au ministère de l'Éducation, la ministre de la Justice et le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, sont eux appelés à recevoir aujourd'hui des représentants des avocats.
C'était le 11 décembre dernier, Édouard Philippe défendait sa réforme des retraites devant le CESE. On était alors au 7e jour de mobilisation dans les transports. Un mois plus tard, force est de constater que rien n'a changé, rien n'a changé dans le discours du Premier ministre. Il le martèle, sa détermination est totale à porter cette réforme universelle par points. Son objectif est inchangé, garantir le retour à l'équilibre du système à l'horizon 2027. Mais dans sa feuille de route, le chef du gouvernement a fait un petit pas de côté en acceptant la main tendue de Laurent Berger d'organiser cette conférence de financement. Ce n'est pas un recul, mais un pas en avant, explique le chef du gouvernement, qui fixe les règles du jeu et un calendrier, faute d'accord avec les partenaires sociaux. C'est écrit noir sur blanc, le gouvernement reprendra la main et légiférera par ordonnance. En se donnant le temps du compromis, en appelant à la responsabilité, Édouard Philippe fissure le front syndical à un moment où les grèves et où les manifestations s'essoufflent. Il offre là une porte de sortie aux syndicats réformistes, même s'il demeure des points de crispation, notamment chez les cheminots, CFDT et UNSA. Et si le Premier ministre s'offre une victoire stratégique dans la négociation, il ouvre en même temps un nouveau front de la contestation au Parlement, puisqu'il invite les députés à se prononcer sur un texte en construction. Le texte sera soumis au vote en première lecture début mars, alors que les partenaires sociaux poursuivront leurs discussions sur la question du financement. Au final de cette séquence, eh bien, le chef du gouvernement se donne du temps, il rassure l'aile gauche de sa majorité, il conforte l'électorat de droite sur son approche budgétaire. Reste maintenant à gagner la bataille de l'opinion. C'est le pari du Premier ministre qui, hier soir, rendait hommage à la patience et à la résilience des Français tout en appelant à terminer cette grève. Mais la pression syndicale reste entière alors que débute, vous l'avez dit, une nouvelle semaine de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale.
Merci Pierre Neveu. Et pour continuer d'évoquer ce sujet, invité de la rédaction aujourd'hui, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question madame Schiappa, non seulement notre système actuel des retraites est aujourd'hui en bonne santé financière, mais selon le dernier rapport de l'OCDE, les retraités en France bénéficient d'un système plus avantageux que les autres pays développés. Et pourtant, la semaine dernière, chez nos confrères de France Info, vous avez déclaré, je vous cite, qu'il fallait transformer ce système inégalitaire et inopérant. Pour quelles raisons ?
Oui, plusieurs raisons. D'abord, sur la question du déficit, les projections nous disent qu'on arrivera à plusieurs milliards de déficit d'ici 2027, et c'est cela que nous voulons éviter en ce qui concerne véritablement la question financière. Ensuite, c'est un système inégalitaire parce qu'il prend en compte les statuts et non pas les métiers, et non pas, par exemple, la question de la pénibilité qui est en train d'être discutée entre le gouvernement et les partenaires sociaux. À l'heure actuelle, selon que vous soyez comptable à France Culture ou comptable à la RATP, vous n'avez pas le même système de retraite. Vous n'avez pas non plus le même système de retraite si vous êtes comptable dans une PME. Pourtant, le métier de comptable reste le même. Et donc, nous voulons nous attacher à la pénibilité des métiers et non pas à la pénibilité selon l'endroit dans lequel vous travaillez. Puis dernier élément, inégalitaire parce qu'il est inégalitaire entre les femmes et les hommes. Il y a 42% d'écart sur les montants des retraites entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Ça veut dire que non seulement le système ne corrige pas les inégalités femmes-hommes entre 9 et 27% au moment de la vie active, mais il les aggrave pour arriver à 42%. Voilà pourquoi il est inégalitaire.
Question de Stéphane Robert.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va en sortir rapidement ?
Mais écoutez, je le souhaite. Je crois que tout le pays le souhaite. Très honnêtement, je ne crois pas que les gens qui sont en grève depuis maintenant plusieurs semaines souhaitent poursuivre la grève pour poursuivre la grève. Certains l'ont dit, moi je ne crois pas à cela. Le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que la grève se poursuive. Et puis enfin, il y a les usagers, notamment à Paris en Ile-de-France, qui pâtissent de la grève, les commerçants, les restaurateurs, qui souhaitent aussi qu'on puisse en sortir et arriver à un compromis. Et donc l'objectif, en tout cas l'objectif l'objectif du gouvernement, c'est que rapidement, on arrive à un compromis pour mettre en œuvre ce nouveau système de retraite universel et par points.
Au-delà de ce conflit qui pourrait se terminer, on ne sait pas véritablement quoi, est-ce que vous ne craignez pas que ça laisse des traces, que d'un côté ça génère un ressentiment au sein de cette partie de la population qui continue à soutenir la contestation, et d'un autre côté, du fait des concessions faites par le Premier ministre, qu'il entame un peu votre crédibilité auprès de cette part de l'électorat qui soutient le pouvoir exécutif?
D'abord, pour l'instant, il ne s'agit pas de concession, il s'agit de poser les termes du compromis. Et on ne peut pas dire on va les négocier, mais on ne bougera pas. Et ça, c'est valable pour les syndicats, c'est valable aussi pour le gouvernement. Et donc, je crois que c'est très courageux de la part du Premier ministre de dire, voilà, moi, je garde les contours et je garde l'objectif de cette réforme et je confie aux partenaires sociaux la mission de trouver un point d'équilibre. Mais d'ailleurs, il a dit qu'il prendrait ses responsabilités et qu'il restaurerait cette mesure de l'âge pivot si l'équilibre n'était pas trouvé par les partenaires sociaux dans la discussion.
Une autre actualité qui vous concerne, vous en particulier, les élections municipales dans 2 mois environ. Vous êtes actuellement conseillère municipale et conseillère communautaire au Mans, et ça depuis 2014. Aujourd'hui, vous êtes candidate dans le 14e arrondissement de Paris. Pourquoi ce changement dans votre implantation locale? Est-ce que vous vous étiez trompée il y a 6 ans? Et pourquoi vous avez choisi le Mans si vous déclarez aujourd'hui vivre à Paris?
Alors, pour une raison assez simple et assez banale, j'ai déménagé. Moi, je suis parisienne, d'origine corse. Je suis née à Paris, j'ai vécu à Paris l'essentiel de ma vie. Je m'y suis mariée, j'ai eu des enfants, j'y étais à l'école, etc., etc. J'ai créé des entreprises. Et quand ma deuxième fille est née, eh bien, nous avons été chassés de Paris par les loyers prohibitifs. Et comme beaucoup de Parisiens, nous sommes partis au Mans, parce qu'au Mans, à 50 minutes de Paris, vous pouviez habiter dans une maison. Alors qu'à Paris, pour le prix d'une maison au Mans, eh bien, vous avez une chambre de bonne ou une place de parking. Et donc avec mon mari et mes deux filles, nous sommes allés habiter au Mans en novembre 2013. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, qui m'a proposé d'être candidate avec lui sur sa liste. Jean-Claude Boulard est décédé depuis, et moi en 2016, fin 2016, je suis revenue à Paris pour m'engager dans la campagne présidentielle avec Emmanuel Macron. Et donc je vis maintenant depuis 2 ans et demi avec mon mari et mes deux filles à Paris de nouveau, tout simplement.
Est-ce que le sens de votre candidature est une façon d'essayer de faire pression sur Cédric Villani, puisque vous vous présentez dans le 14e arrondissement, là où il se présente également?
Alors, c'est Cédric Villani qui est venu dans le 14e arrondissement, où j'étais déjà engagée et où j'étais déjà marcheuse avec le comité engagé. Il est député de l'Essonne, il a souhaité venir dans le 14e arrondissement. C'est son choix et c'est sa liberté démocratique. Néanmoins, effectivement, ma candidature, elle a un sens dans la mesure où je suis soutenue par le président de la République et par le Premier ministre pour venir m'engager avec Benjamin Griveaux, qui est l'unique candidat soutenu par La République En Marche.
Ça, c'est lui qui vous l'a dit, mais il faut vous croire sur parole, puisque lui dit qu'il n'a pas été écarté, enfin on lui a pas signifié du côté de...
Alors, on peut croire tout le monde sur parole, je crois pas que le président de la République et le Premier ministre laisseraient leur ministre, peut-être au pluriel, être candidate sur la liste de Benjamin Griveaux s'ils ne soutenaient pas Benjamin Griveaux. Et il y a un seul candidat qui a été investi par La République En Marche, c'est Benjamin Griveaux, et je le redis parce que je crois qu'il faut être effectivement sincère avec les électrices et les électeurs, et pas prétendre qu'on est un candidat En Marche, quand ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, sera candidat aussi dans le 17e arrondissement avec Benjamin Griveaux. C'est là encore un soutien très fort pour notre candidat.
Il faut débrancher aujourd'hui Cédric Villani, pour employer un terme usuel qu'on utilise habituellement.
Alors moi j'essaye, c'est difficile, hein, mais j'essaye de pas trop utiliser le vocabulaire violent et guerrier de la politique. Je sais qu'on a l'habitude de dire on va le débrancher, on va le tuer, etc. J'essaye de faire en sorte de pas utiliser ce vocabulaire. Mais moi je crois simplement qu'il faut être sincère. Et donc si Cédric Villani veut poursuivre sa candidature à Paris, il faut qu'il quitte La République En Marche, puisque je crois qu'on ne peut pas se dire membre d'un parti, mais refuser les règles collectives de ce parti politique. Donc je l'appelle tout simplement à la sincérité et aller au bout de sa démarche.
Au-delà d'une candidature municipale, c'est quoi le sens de s'engager au municipal quand on est membre du gouvernement? Vous allez faire quoi précisément?
Alors vous savez, moi ce que j'observe, c'est qu'on reproche à des membres du gouvernement d'être candidats. Dans le gouvernement de François Hollande, sous la présidence de François Hollande, il y a encore plus de ministres qui s'étaient présentés à la candidature aux élections municipales. On a reproché un temps à ce gouvernement d'être pas assez politique, déconnecté, pas assez connecté. Et maintenant, j'entends certains grincer parce que des ministres et des secrétaires d'État seraient candidats aux élections municipales. Moi, je crois que c'est important de se présenter aux électeurs. C'est aussi une occasion d'aller à leur rencontre. Depuis que j'ai déclaré ma candidature, beaucoup d'habitants de Paris m'ont interpellé sur l'attribution des places en crèche, sur les logements insalubres, sur l'ordre public, sur le harcèlement de rue des femmes dans Paris. Et donc, je crois que c'est aussi l'occasion pour nous d'aller nous occuper de ces sujets de terrain et du quotidien.
Merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État, je le rappelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. Alors, si le dossier retraite a beau occuper l'essentiel aujourd'hui du débat politique, il n'apparaît pas en revanche dans l'agenda public du chef de l'État. En ce début d'année, le président préfère lui s'afficher sur ses autres priorités, les crises internationales, nous y reviendrons, mais aussi la lutte contre le communautarisme, la défense du climat, sans oublier l'attractivité économique de la France. Selon une étude publiée aujourd'hui, l'attractivité industrielle de la France pour les investisseurs étrangers reste en tête des pays européens. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, à quelques jours du traditionnel forum de Davos, cette étude tombe à pic, Marie, pour prouver que l'attractivité de la France, au fond, ne pâtit pas du conflit social.
Alors, les projets industriels sont au beau fixe en France depuis 2016. En 2018, il y a eu, selon l'étude d'EY, 339 projets d'implantation ou d'extension en France contre 152 en Allemagne. Les projets industriels sont en baisse de 6% entre 2017 et 2018 en Europe, Turquie et Russie comprises, mais ils sont en hausse de 5% en France. Ils ont même chuté de 35% en Grande-Bretagne. La France profite donc notamment d'un effet Brexit. Alors EY, qui produit cette étude, est l'un des plus importants cabinets d'audit financier et de conseil au monde. Ces chiffres viennent de leur propre collecte de données et ils associent une enquête d'opinion auprès de 200 dirigeants d'entreprise. Alors pourquoi cet attrait des étrangers pour la France? Trois raisons principales. Un, la France est un pays qui dispose d'une large base industrielle et ses projets d'implantation s'insèrent dans des chaînes bien établies, notamment on pense à l'aéronautique. Deux, la France a un grand marché, 66 millions d'habitants, et trois, de très bonnes infrastructures, un coût de l'énergie faible et des salariés aux compétences nombreuses et diverses. On ne note pas, selon le sondage d'EY, d'effet gilet jaune ou crise des retraites sur les investisseurs étrangers et il est de toute façon trop tôt pour le mesurer. On verra dans une semaine à Versailles ce qu'en disent les entreprises étrangères invitées au sommet Choose France, choisissez la France, organisé par l'Elysée. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un avant et un après CICE, le crédit d'emploi compétitivité emploi, qui est le dispositif d'aide aux entreprises qui avait été mis en place par François Hollande et qui a été transformé par Emmanuel Macron en allègement de charges permanent. Ces projets d'implantation, grande question, vont-ils créer de l'emploi? Eh bien, c'est là qu'il y a un bémol. En France, chacun de ces projets recensés par EY crée en moyenne 30 emplois contre 45 en Allemagne et 60 pour la Grande-Bretagne.
Merci Marie Viennot. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'agenda international du chef de l'État. Ce sera notamment le cas cet après-midi à Pau avec un sommet sur la situation sécuritaire au Sahel en présence d'Emmanuel Macron et des dirigeants du G5 pour clarifier le cadre de l'engagement français dans cette zone semi-désertique, aussi vaste que l'Europe, est devenue depuis 2012 le terrain d'action de plusieurs groupes djihadistes, pour certains affiliés à Al-Qaïda et puis d'autres à l'organisation État islamique. Signe d'ailleurs d'une sécurité précaire plutôt dans la région, le bilan de l'attaque djihadiste survenue jeudi dernier au Niger a été porté hier à 89 morts côté soldats nigériens, soit la pire attaque de l'histoire du pays. Autant dire que ce sommet est celui de tous les espoirs, donc, mais aussi de tous les dangers, car au-delà du décrochage sécuritaire des armées locales, eh bien la France, qui mobilise dans la région quelques 4500 soldats, attend également de ses partenaires que ces prises de parole fortes face à la défiance des opinions publiques et le sentiment anti-français de plus en plus présent dans la région. Après plus de 9 mois de combats meurtriers aux portes de Tripoli, les deux rivaux libyens, le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'Union nationale, Al-Sarraj, sont attendus aujourd'hui à Moscou pour signer un accord sur les modalités du cessez-le-feu entré en vigueur hier. Une accalmie toute relative, si l'on en croit les coups de feu qui retentissent toujours aux abords de la capitale, sans compter qu'on ne sait toujours pas si les deux hommes accepteront de se rencontrer directement. Rick Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Seule certitude, le relatif respect donc de ce cessez-le-feu, fruit d'une rencontre il y a quelques jours à Istanbul entre le président turc et son homologue russe, confirme au fond l'émergence de Moscou et d'Ankara comme des puissances incontournables aujourd'hui au Moyen-Orient, malgré d'ailleurs leurs divergences et surtout au détriment donc des Européens.
Oui, la dernière fois que le général Haftar et le chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, s'était vu, c'était aux Émirats, il y a un an, à l'initiative de l'envoyé spécial des Nations Unies, Ghassem Salamé. Quelques mois plus tôt, il s'était vu à Paris, à l'instigation du président français cette fois. Des entrevues qui n'avaient pas véritablement permis de rapprocher les parties. La Russie de Vladimir Poutine et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan auront peut-être plus de chance cette fois-ci. C'est en effet, vous l'avez signalé, sous égide turco-russe que les deux délégations libyennes se rencontrent aujourd'hui. D'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, turcs comme russes, doivent assister au pourparlers à Moscou. Russie Russie et Turquie se sont en effet positionnés ces dernières semaines comme les principaux soutiens diplomatiques et surtout militaires des deux parties au conflit. Les Turcs annonçant vouloir déployer quelques-uns de leurs supplétifs et leurs forces spéciales en appui au gouvernement Farage. La Russie appuyant déjà lourdement les troupes du général Haftar grâce aux paramilitaires du groupe de sécurité privée Wagner. Cette présence militaire turque et russe donne de fait un certain poids aux sponsors de cet accord de cessation des hostilités en vigueur depuis dimanche. Un poids que n'ont pas et que n'ont jamais eu les Européens. Un poids grâce auquel la trêve en vigueur sur le terrain depuis dimanche pourrait se voir transformée en un authentique accord de cessez-le-feu, voire en une conférence de paix. L'Allemagne propose d'accueillir une telle conférence sur la Libye à Berlin le 19 janvier, c'est-à-dire dimanche prochain.
Merci Eric Biegala. L'Iran continue de vivre des heures inédites. Hier, de très nombreux contestataires se sont à nouveau rassemblés, notamment à Téhéran, pour fustiger l'action des autorités après l'aveu de l'armée, laquelle a reconnu avoir abattu par erreur l'avion d'Ukraine Airlines. Des manifestations qui semblent clairement signer la fin de l'union nationale affichée après la mort du général Soleimani. Si le premier souverain pontife a démissionné en près de 6 siècles, c'était d'abord astreint à une vie de contemplation et de calme. Il semble que Benoît XVI ait depuis changé d'avis, n'hésitant plus à s'exprimer ouvertement sur les dossiers clés de l'Église catholique. Dernier exemple en date, dans un livre à paraître mercredi, mais dont des extraits ont été publiés hier en exclusivité, l'ancien pape exhorte publiquement son successeur François à abandonner l'idée d'ordonner prêtre des hommes marié. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Alors cette prise de position d'un pape émérite est plutôt inhabituelle, mais surtout, Bruce, en prenant une position forte avec des arguments de théologien, eh bien, Benoît XVI prend le risque, au fond, de plonger encore un peu plus l'Église dans la crise.
Ah oui, la position est forte. Benoît XVI appelle tous les évêques, prêtres et laïcs à ne pas se laisser impressionner, je cite, par les mises en scène théâtrales, les mensonges diaboliques, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat des prêtres. Il s'oppose à l'ouverture du synode des évêques sur cette question il y a 2 mois et remet en cause les arguments de ceux qui affirment que le célibat n'est arrivé que tard dans l'Église, dans l'histoire de l'Église. Même dans l'Église ancienne, écrit-il, les hommes mariés ne pouvaient recevoir le sacrement de l'ordre que s'il s'était engagé à respecter l'abstinence sexuelle. Pas d'ouverture donc, sinon ce serait une catastrophe pastorale. Benoît XVI se défend de s'opposer ouvertement à François, et c'est pourtant bien ce qu'il fait. Lui qui, il y a 7 ans, lorsqu'il a renoncé, s'engageait à une obéissance et une déférence inconditionnelle envers le nouveau pape. Alors il est vrai que François n'a pas encore pris sa décision finale sur l'ordination de diacre permanent. Il doit publier une lettre apostolique dans les semaines qui viennent. Benoît XVI cherche donc à influencer son successeur qui jusque-là a résisté à la frange conservatrice du Vatican. Elle est emmenée par le cardinal Sarah, actuel ministre de François et qui a co-signé le livre de Benoît XVI. Aujourd'hui, plusieurs vaticanistes estiment que ce dernier est instrumentalisé et qu'il faut définir clairement le rôle et les droits du pape émérite.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. Le Parlement européen, toujours secoué par les déchirements espagnols à propos de la Catalogne, vendredi dernier, l'indépendantiste Junqueras, emprisonné en Espagne depuis la tentative de sécession de 2017, s'était vu retirer son mandat d'eurodéputé. En revanche, et après que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le mois dernier l'immunité de l'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, lequel fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt européen, et bien ce dernier va lui pouvoir faire son entrée cet après-midi dans l'hémicycle à Strasbourg. Les précisions d'Angélique Bouin.
Nuée de caméras et flashs qui crépitent, ce vendredi 20 décembre, pour saluer la décision de la justice européenne, l'ancien président catalan avait soigneusement mis en scène sur les marches du Parlement la remise de son badge d'eurodéputé.
Nous avons dû lutter contre une machinerie très puissante, influencée par l'Espagne et certains partis politiques qui ont explicitement agi contre nous. Et je pense que le fait que nous ayons cela peut être une défaite pour certains, c'est une grande victoire pour l'Europe.
Tout comme Toni Comín, Carles Puigdemont a également récupéré 6 mois d'arriérés de salaire, près de 54 000 euros. Mais sa présence à Strasbourg pourrait être de courte durée car Madrid a déjà demandé la levée de son immunité. Strasbourg, où ne siégera pas le 3e indépendantiste élu en mai, Oriol Junqueras, emprisonné pour 13 ans en Espagne, son mandat d'eurodéputé lui a été officiellement retiré vendredi. Le Parlement européen européen a suivi l'avis de la Cour suprême espagnole qui n'a pas reconnu son statut d'élu. Une décision vivement contestée en Catalogne et au-delà. L'état de droit et la démocratie sont piétinés dans un silence embarrassé, a ainsi tweeté Manon Aubry, l'eurodéputée française de la gauche radicale.
Aux Philippines, quelques 10 000 personnes ont été évacuées dans la crainte d'une imminente éruption explosive du volcan Taal. Ce matin, une gigantesque colonne de 15 km de haut chargée de cendres et de fumée zébrée d'éclairs s'élevait au-dessus du cratère. Tous les vols en provenance et à destination de la capitale Manille ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. On termine avec un mot de météo. Cet après-midi, le temps restera le plus souvent très nuageux avec de petites pluies passagères sur la moitié nord. Au sud, en revanche, le soleil fera quelques belles apparitions. Malgré la présence d'un voile nuageux plus ou moins dense. Quant aux températures, elles afficheront généralement entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.